The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Band Geek Mafia pour une émission spéciale 40 ans, les 40 ans de Radio G.
40 ans de Radio G.
Salut Seb.
Salut Seb, salut Anaïs.
Salut Seb, salut Seb.
Salut Seb, salut Anaïs.
Salut Seb,
voilà, on est là.
On salue tout le monde.
On est au complet, quoi. On est
alors,
au complet.
Band Geek Mafia, habituellement, c'est le mercredi à 19h, mais exceptionnellement aujourd'hui, c'est le samedi à 17h.
On n'est pas mercredi, là.
Non.
On est perdu. Hein.
Parce que ce sont les 40 ans de Radio G, votre radio préférée, 101.5 FM, radio-g.fr. Salut Pierre Benoît. Et on démarre tout de suite avec un petit morceau de musique. Alors évidemment, comme d'habitude, vous le savez, on va parler de bandes dessinées, de séries télé, de musique, de tout ce qu'on aime. Mm-hmm. Et Pablo, il nous a fait une petite sélection musicale. Alors on va démarrer avec les Strokes, hein, parce que c'est un groupe qu'on aime bien, un groupe de rock. Et ça va comme ça,
ça va nous
donner le ton de l'émission.
D'accord.
On est bien sur Band Geek Mafia. Radio G.
101.5, radio qui fait le point.
The Strokes dans Band Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Ouais.
Alors pour fêter les 40 ans de Radio G, on vous parle d'un personnage qui lui-même n'est pas tout jeune, mais qui est très célèbre, c'est James Bond.
James Bond, bah oui, alors on en a parlé il y a 15 jours, enfin un petit peu plus que 15 jours, donc c'était la sortie, mercredi 6 octobre dernier, la sortie donc de No Time to Die, Mourir peut attendre, avec le dernier film donc de Daniel Craig, le dernier James Bond, où Daniel Craig va jouer. Ouais, voilà, Sniff. Le film est de Gary Yuji Fukunaga. Voilà, c'est ça, la musique de Hans Zimmer. Du coup, dans le film, on retrouve évidemment Daniel Craig, Léa Seydoux et Rami Malek. Rami Malek, vous l'avez connu dans Mr. Robot, enfin bon, ouais, une série surtout, que j'avais beaucoup aimé, et bien sûr
dans Bohemian Rhapsody.
Bah oui, le rôle de Freddie Mercury est vraiment brillamment, quoi.
Et puis il a aussi joué dans une petite série qui était très sympathique aussi, dans The Pacific aussi en même temps, mais il avait un rôle qui était beaucoup moins sympa.
Ouais.
Donc
déjà capable de jouer le méchant. Hein.
Ouais. Le cinglé, un beau cinglé quand même, hein, dans The Pacific.
Ouais, absolument. Donc, quoi dire là-dessus? Bon, on vous envoie le synopsis. Allez,
ah oui,
synopsis.
Je croyais que vous voulez le générique.
Non, le synopsis.
Moi, je te le mets.
Alors, James Bond n'est plus en service, il s'est mis à la retraite. Et il profite d'une vie tranquille, par contre, excusez-moi, aux côtés de Madeleine Swann, cette psychologue qu'il avait rencontrée dans Spectre. Mm-hmm. Mais son répit est de courte durée, car l'agent de la CIA, son célèbre ami Felix Leiter, fait son retour pour lui demander son aide. Sa mission, qui est de secourir un scientifique enlevé, va se révéler plus traître que prévu, et mener Bond sur la piste de Safin, un ennemi particulièrement dangereux, plus sournois et dangereux que le Spectre, c'est vous dire. Donc voilà, Daniel Craig tient ses promesses pour son cinquième et sa dernière interprétation de l'espion. Il donne tout, la brutalité froide et la fragilité qui le caractérise si bien. Du coup, Léa Seydoux et Rami Malek jouent très bien, certes, mais semblent légèrement en dessous, comme s'ils étaient intimidés face à l'acteur britannique. Les amateurs d'action et de James Bond en général seront servis. L'espion se bat comme jamais, la caméra le filme de très près, comme dans un jeu vidéo Shoot 'em up.
Shoot 'em up,
merci, excusez-moi. Voilà, les spécialistes me corrigent, c'est impeccable. La faiblesse du film tient sans doute à son scénario, qui est très classique, parfois fort attendu, sauf la fin. Mais je n'en dirai pas plus. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans c'est la place des femmes, évidemment. La place faite aux femmes. Madeleine Swann, d'abord, bien sûr, Léa Seydoux, à la fois mystérieuse et touchante. On en apprend plus sur son passé trouble. Une nouvelle espionne a pris le matricule 007. Elle s'appelle Nomi. Elle est interprétée par Lashana Lind. C'est une belle femme noire, athlétique et gracieuse, qui me fait penser à Grace Jones, que vous avez pu connaître notamment dans Dangereusement Vôtre, A View to a Kill. Peut-être sera-t-elle la prochaine héroïne de la franchise. Mais alors, celle qui m'a ébloui, celle qui crève l'écran, c'est le personnage qui joue une agence secrète de la CIA, une cubaine, Paloma. Paloma, interprétée par l'espagnole Ana de Armas. Amigos, una bomba latina.
Bomba.
Je t'assure.
Atomica, bomba.
Elle accueille James Bond à La Havane dans un bar avec une robe fendue jusqu'à la hanche, un décolleté jusqu'au nombril et des talons aiguilles. Elle joue les fausses ingénues. Et là, on se dit, bon, James Bond va n'en faire qu'une bouchée. Mais pas du tout.
Petite question, Pablo. C'est la robe de Mireille d'Arc dans Le Grand Blond.
Ah, dans le style, exactement.
Oh, purée.
Ah ouais. C'est-à-dire que t'as très peu de tissu.
Oui, bah d'accord. Non, c'est.
Voilà.
Calmez-vous, les garçons, calmez-vous.
Bon, et en fait, James Bond.
C'est bizarrement parti cette émission.
Est totalement bluffé.
Bah, James
Il
Bond.
Est totalement bluffé. Oui, alors là, c'est vraiment James Bond. La Latina, enfin, en tout cas, elle est décoiffante. En fin de compte, pas du tout. C'est une tueuse hors pair. Elle envoie du lourd, du très très lourd. Sa séquence ne dure que 15 minutes environ, mais elle éclipse tout le monde. Bref, peut-être que comme moi, ce dernier James Bond vous fera vibrer, mais aussi pleurer. Merci de votre écoute.
Ah bah ça, on va pleurer, hein, puisque c'est Daniel Craig qui parle. Moi, ce que j'aime bien dans ta chronique, tu disais justement que Daniel Craig intimidait peut-être les autres acteurs. Mais t'as vu son faciès aussi en même temps. Tu crois c'est qu'il, lui, c'est quand ça. Il rit, je sais pas, il fait quoi? Il se brûle le doigt pour rigoler ou quoi? C'est impressionnant.
Non, il a une espèce de froideur.
Ah oui,
après, c'est vrai que dès qu'il sourit, il a un grand sourire qui est lumineux.
Ouais, enfin bref, tu fais peur aussi, son sourire. Ouais. Je sais pas, moi.
C'est carnassier, hein, ou ouais, soirée de requin.
Merci Pablo pour cette chronique.
Et merci à vous.
On écoute un petit morceau de musique.
Non, j'ai hâte d'aller le voir, moi, en vrai.
Alors moi, pas du tout. Non, non, c'est vrai.
T'es dans la contradiction aujourd'hui.
Non, non, pas du tout. Non, non, mais c'est vrai qu'il me fait pas envie, ce James Bond.
Ah, c'est vrai.
Non, pas du tout.
Ah, non, mais c'est un adieu, alors donc c'est sûr, ça donne pas envie. C'est ça. Je pense que
peut-être
c'est ça.
Peut-être que ça me plaît pas à cause de ça.
Ouais, inconsciemment.
Vous êtes bien sur Radio G. 101.5. Attention, grand débat cet après-midi sur Radio G.
Diable.
Le débat est ouvert.
3 chroniqueurs sur 4 ont vu Squid Game, sachant que Seb a regardé quand même quelques extraits. Mais
oui, mais peut-être pas les meilleurs.
Anaïs, Pablo et moi, on a vu toute la saison.
Oui.
Et il y a polémique dans l'équipe.
Alors ouais. Moi, je sais pas où est la polémique. J'attends de voir vos points de vue. Et...
Bah, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Certains ont aimé, d'autres ont détesté.
Oui, mais alors le pourquoi du comment.
Pourquoi du comment. Mais Anaïs, pourquoi es-tu en position d'attente? C'est toi qui vas démarrer.
Nous ne connaissons pas ta position. Allons-y.
Bah déjà, on peut rappeler le principe de cette série de manière très très simple.
Bien sûr.
Parce que c'est vrai que les médias sont emparés, on en parle énormément, mais pour rappeler aux auditeurs qui n'auraient pas encore entendu parler de ce phénomène. En fait, il s'agit d'un jeu auquel participent des gens qui sont un peu fauchés, qui sont en galère d'argent en Corée. Et en fait, le but du jeu, c'est de, d'arriver au bout, et ceux qui échouent à des jeux qui sont des jeux enfantins, en fait, on retrouve le premier jeu dont tout le monde a parlé, c'est le 1, 2, 3 Soleil. Et effectivement, ceux qui perdent sont tués.
Voilà, sont éliminés. Physiquement voilà. Éliminés.
Alors, j'ai envie de dire que c'est pas la première fois qu'on raconte ce genre de.
Non, c'est vrai.
On l'a déjà lu dans la littérature. Moi, je pense à un livre qui s'appelle Marche ou crève, de Stephen King. Oui. Donc, c'est un peu le même procédé, mais du coup, télévisé.
Running Man aussi, qui était de Stephen King.
Stephen King, mais sous un pseudo.
Oui, sous un pseudo.
Richard Bachman.
Ouais.
Donc du coup en fait
et surtout excuse-moi Anaïs parce que puisqu'on parle des références ça fait vraiment penser à Battle Royale.
À la fois en film et aussi en manga puisque c'est un manga à la base quand même. Donc c'est pas la première fois
jusqu'à Hunger Games
mais c'était japonais
mais on peut même rajouter aussi dans le même esprit puisque à la fin il doit en rester qu'un.
Oui, c'est ça. C'est
Duncan MacLeod. Donc voilà.
Highlander.
Highlander.
Oui, alors là on est quand même loin de Highlander.
Oui, non mais on est très très loin mais bon c'est le principe aussi à la fin il n'en reste qu'un.
Ouais, c'est ça. Sauf que t'es pas immortel.
Ah non.
Oui donc voilà.
Donc c'est une série coréenne.
Oui.
Que dire de plus qui n'a pas été dit de nombreuses fois.
Elle est interdite au moins de 16 ans.
Elle est interdite au moins de 16 ans.
Donc, oui c'est effectivement c'est donc c'est très violent.
Le réalisateur il s'appelle Wang Dong-hyuk.
Merci pour cette information.
Quand même il faut le citer. Désolé.
Précisons soyons précis aussi. Corée du Nord ou Corée du Sud.
Corée du Sud. Voilà, ça, c'est on est à Séoul.
C'est facile.
Pourtant vu l'état d'esprit.
Oui effectivement.
C'est pas bête, c'est pas faux.
On pourrait être en Corée du Nord.
Après, ouais. Donc voilà le principe. Et voilà. Alors, pour retrouver le contexte moi, dans lequel j'ai vu cette série, en fait, j'ai pris part du phénomène en voyant tous les articles qui étaient publiés sur les réseaux sociaux. J'avais pas encore vu que cette série était sortie sur la plateforme Netflix. Et en fait, je me suis demandé, mais c'est quoi ce. Pourquoi tout le monde en parle? Qu'est-ce qui se passe? C'est violent, mais voilà. Donc, je me suis dit, je vais quand même regarder. J'avais un a priori assez négatif, parce que je pensais que c'était vraiment que dans la violence. Et finalement, il y a quand même une réflexion sur la société coréenne.
C'est pas que dans la violence, c'est dans l'ultra-violence.
Oui, aussi.
Moi, c'est pas la violence qui m'a dérangé dans cette série. Parce que moi, vous avez compris que je suis pas un grand fan de Squid Game, hein, même si j'ai regardé la première saison. Je me suis dit quand même. Peut-être que ça va. Justement, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une critique de la violence, quoi. Et que j'ai pas vraiment constaté, en fait. Moi, c'est ce qui me dérange, en fait. C'est pas la violence en tant que telle. C'est le discours qui est porté sur les événements dans la série, en fait. Ouais. Parce qu'on assiste à des jeux, comme tu dis, mais qui sont pas innocents, parce que c'est des jeux pour enfants, mais c'est sadique, en fait.
Bien sûr.
Et oui, bien sûr. Ouais.
Et non, mais c'est là toute la perversion.
Et donc, ça fait pas dans la finesse, quoi.
Toute la perversion du jeu, en fait.
C'est pas interdit au moins de 16 ans pour rien, voilà. Parce que c'est brutal. C'est assez frontal, ça. On voit la violence.
Ouais.
Mais c'est sur moi, ce qui m'énerve, c'est que ce qui m'agace profondément, c'est que si c'est une série qui critique un monde violent et brutal, on n'est pas obligé de le faire en montrant de la violence et de la brutalité, quoi. Et voilà, c'est toute la perversion du truc. Et c'est à mon avis l'erreur, parce que ça a un certain côté pervers, hein, cette série. Le spectateur, il sait évidemment que les participants vont mourir, donc on attend avec impatience de savoir lequel. Vous voyez bien la perversion. Ouais. On nous met dans une position, moi, qui me convient pas du tout.
Et puis ce qui est un peu dérangeant, c'est que finalement, quand on se trouve pris dans la série et on attend de savoir quels seront les prochains jeux.
Bah, c'est ça.
Donc c'est un peu
on est manipulé. On se retrouve dans une position qui est perverse pour le coup parce que on est coincé par la série.
Ouais, mais Seb, si tu vas par là, la plupart des films ou beaucoup de séries ont déjà usé de ce procédé en fait.
Oui,
très souvent, nous sommes mis en fait face à nos responsabilités, c'est-à-dire en fait en tant que voyeur d'une violence.
On peut arrêter de regarder.
On peut arrêter de regarder, mais si on regarde, c'est aussi que justement cette violence, elle fait écho et elle fait écho à quelque chose. Alors pas forcément à notre violence intérieure, hein, mais peut-être à une violence. Elle parle du réel aussi.
Mais dans beaucoup de séries ou de films du même genre, la critique, elle est explicite en fait. Là, c'est pas explicite. La critique, elle est implicite. Il faut avoir des références, des connaissances pour pouvoir vraiment saisir la subtilité du truc. Quoi. Les jeunes qui regardent ça, parce que le problème, c'est qu'il y a plein de jeunes qui regardent.
Ça, c'est un sacré
problème. Ils regardent ça au premier degré. Ouais. Ils refont les jeux.
Je suis pas sûr que.
Bah là, on a encore eu le cas hier d'un collégien qui s'est fait tabasser parce qu'il a joué à 2-3 soleils dans un collège.
Oui, je suis d'accord. Mais après, là, c'est le débat éternel de la responsabilité des parents. C'est interdit au moins de 16 ans.
Voilà.
Donc. Ouais. Moi, je pense à des plus âgés. Je pense que des lycéens peuvent regarder la série avec un œil critique et pas regarder la violence pour la violence.
Ils pourront avoir cet œil critique que s'il y a une discussion avec quelqu'un après.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est pas du tout explicite dans la série. La critique, elle est pas très claire.
Non, là, c'est vrai qu'on sent dévoiler la fin. La fin aussi, j'ai l'impression qu'on peut la percevoir de plusieurs manières. C'est pas super clair.
On est bien d'accord. En fait,
mais moi, j'ai quand même l'impression qu'ils sont allés un petit peu au bout, c'est-à-dire prendre une hypothèse, celle de la violence actuelle du monde, notamment du capitalisme et de cette société du spectacle, et de la pousser l'hypothèse jusqu'au bout, en fait.
Non, mais montrer, ça, aucun problème avec
voilà,
ça.
Tu vois. Et effectivement, en laissant... alors, c'est peut-être je pense que c'est peut-être comment dire, le parti pris, en fait, du réalisateur, c'est de laisser le spectateur...
Oui. Celui qui a plus de 16 ans.
Voilà, bien sûr, on est bien d'accord. Mais si tu veux, ça c'est lui évidemment, il a conçu sa série.
Mais moi je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir ses références, il faut avoir une maturité en fait.
Alors, évidemment.
Mais là le débat qu'on peut avoir c'est le problème c'est est-ce que dans ce cas-là on censure tous les films violents?
Non, sûrement pas.
Ben non mais
c'est pas forcément dit, c'est pas ce que je suis en train de dire, me dites pas que je suis un censeur.
Non, c'est pas ça que je veux dire.
Je suis le censeur, je demande d'arrêter.
J'ai le droit de ne pas apprécier cette série quand
non,
même.
Mais bien
d'accord.
Sûr. Mais il y a pas que toi, mais il y a eu des débats sur. Bah, ce qui revient beaucoup, c'est voilà cette problématique que la série arrive sur les cours d'école et sur des cours d'école bien trop jeunes, même en primaire. Et le problème, c'est les plateformes et l'accessibilité de ces plateformes
aux parents. Voilà. Ça me fait penser un peu à peut-être un débat qu'il y avait eu. C'est mes parents qui m'en avaient parlé à propos d'Orange Mécanique quand il est sorti dans les années 70, 71, je crois. Il a fait exactement la même polémique, c'est-à-dire comment peut-on montrer l'ultra-violence, en plus le sexe, et du coup mêler ça avec de la musique. Celle de Beethoven. Alors là, par exemple, clairement, on a des musiques soit enfantines, soit, par exemple, on a la musique, comment ça s'appelle, celle de Frank Sinatra.
Fly Me to the Moon.
Fly Me to the Moon. Qui
il suffit de demander.
Il suffit de demander. Qui fait un espèce de contraste.
Oui, ça, c'est vrai que c'est pas mal.
Un contraste
intéressant.
Terrible et glaçant.
Mais là, ça devient intéressant.
Voilà. Ce contraste esthétique entre une violence extrême et tout d'un coup, une musique jazzy, comme ça, qui passe avec.
Alors.
Voilà, une voix coréenne.
Pour nuancer. C'est mon argumentation quand même. Parce que moi, ce qui me gêne dans les séries ou les films comme ça, c'est la violence gratuite, vous avez compris.
Oui, bien sûr.
Par contre, la série, elle est portée par des acteurs excellents.
Ouais, il faut
quand même le dire. Surtout l'acteur coréen là, qui incarne le loser magnifique, là, qui est prêt à. Enfin, il n'est pas prêt à tout, lui, pour remporter le jeu, mais il se débrouille bien. Quoi.
Il se débrouille, voilà, tout à fait.
Parce que certains personnages sont prêts à tout.
Oui, tout à fait.
Et moi, je trouve que ça, par contre, ça permet quand même d'apprécier la série. C'est-à-dire que c'est bien fait sur la forme, quoi.
Ouais.
Voilà. Oui,
c'est bien joué, c'est bien.
Même l'esthétique.
Oui, voilà, j'avais parlé de ça aussi.
Vas-y.
Mais l'esthétique de la violence, encore. Ouais. On retombe sur le même, tu vois.
Mais c'est-à-dire qu'on retrouve une esthétique un peu à la Casa de Papel, avec des costumes très, très, très stylisés. Cette jogging, ces survêtements.
Oui, la combinaison,
verts,
là.
Pour les prisonniers, enfin, les joueurs plutôt, avec leurs baskets blanches. Et puis l'autre, c'est la combinaison rouge des gardiens et leur masque avec une inscription,
un carré, un rond, un triangle.
Ouais, c'est ça.
Pour, des figures géométriques.
Pour les placer dans la hiérarchie.
Voilà. Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Alors,
ça rappelle un petit peu les symboles sur les manettes de jeux vidéo.
Oui, mais complètement. Bien sûr.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi un thriller là, dans cette histoire, parce qu'il y a un policier.
Oui.
Alors, on va pas trop dévoiler, mais il y a aussi l'histoire. Il y a pas que l'histoire des jeux et des voilà. Il y a aussi un policier qui mène l'enquête, quoi.
Tout à fait. Voilà. Et qui s'est infiltré dans.
Enfin, ce que je voulais pas dire.
Ah. Non, mais on n'en dit pas plus. Mais
c'est pas grave.
C'est pas grave.
Mais moi, si je l'ai regardé en entier, c'est parce que je pensais qu'à un moment donné, la critique serait plus explicite. En fait.
Ouais, je comprends.
Voilà, je suis resté un peu sur ma faim.
Parce qu'effectivement, cette partie-là de cette enquête, finalement. Je suis en train de me demander ce qu'elle apporte vraiment à la série, en fait.
Pas grand-chose. Un peu de suspense.
Ouais.
Tout d'abord, il faudrait juste savoir quelle est l'intention, finalement, du scénariste.
Ah bah, alors ça, c'est un vrai problème.
Sérieusement, c'est pas
assez problématique.
Oui, non, mais là, d'après ce que j'entends, c'est ça le problème. C'est quel est le but de cette série, ouais. C'est le but, c'est quoi? C'est de montrer de la violence. Quel est l'intérêt dans ces cas-là? De faire une critique. Mais si c'est pas explicite, comment on peut critiquer de manière...
Il faut qu'il y ait un débat autour.
Oui,
de,
voilà.
De ça,
ouais.
Après, il va sûrement y avoir une deuxième saison.
Certainement.
Donc,
alors c'était pas prévu. Mais étant donné le succès et étant donné la fin,
donc là, c'est
vous avez vu le dernier épisode, ça laisse supposer qu'il y aura une suite.
Oui.
Donc en clair, ça laisse supposer tout simplement que sur cette série, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est de la violence. Finalement, le côté voyeurisme des hommes, il suffit juste de regarder. Hein. Vous avez un accident, vous allez avoir ce que j'appelle moi les mouches à merde qui vont arriver pour regarder, pour voir. Et apparemment, c'est ça, c'est simplement faire du sensationnel par l'intermédiaire de ces meurtres qui sont purement gratuits. Quoi.
Mais ce qui est étrange aussi, on parlait des références tout à l'heure, Hunger Games. Généralement, en fait, quand il y a ce système de jeu avec des personnes qui sont tuées au fur et à mesure, c'est télévisé. Mmh. On retrouve pas ça du tout dans la série.
Ah non, là, c'est
un spectacle pour quelques privés, pour quelques VIP.
C'est encore plus glauque.
Voilà, c'est glauque. Hein.
Excuse-moi,
Pablo, parce qu'on parlait des VIP, est-ce que vous avez eu cette impression, la même impression que moi? Il y en a un, on dirait Donald Trump. Non, moi j'ai eu vraiment cette... Bon, bref, c'est tout. Pablo.
Mais en même temps, tu vois ce côté. Alors, effectivement, lui regarde le maître du jeu regarde les jeux à travers ses écrans, comme nous on regarde à travers les écrans. Et moi j'y voyais vraiment une sorte de miroir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le réalisateur nous tend un miroir, nous dit regardez ce que vous faites depuis une vingtaine d'années. Parce que je vous rappelle que quand même, le début du 21e siècle a vu l'apparition d'un nouveau genre de divertissement qui s'appelle la télé-réalité. On n'avait jamais vu des jeux aussi humiliants, aussi sélectifs, basés sur l'ultra compétition, l'hyper compétition, comme ce qu'on a comme ça a été le modèle à Séoul ou en Corée, hein, dont on vantait les mérites de l'école, etc. Tout en oubliant évidemment qu'ils ont aussi un des plus forts taux de suicide.
Le plus fort taux de suicide.
Voilà, donc tu sais bien. Et effectivement...
D'ailleurs, il y a des suicides dans la série.
Bien sûr. Oui, voilà.
On est vraiment
dans une culture, si tu veux, télévisuelle, de l'élimination, de l'humiliation, de la violence. C'est vrai qu'il y avait un documentaire qui était passé en 2009 sur France 2, qui s'appelait Le jeu de la mort, et qui rappelait cet aspect-là, et qui demandait, mais en fait, à quand... quand est-ce qu'on va franchir ce tabou d'une mise à mort télévisuelle en direct? Voilà. Et c'est vrai que moi je trouve que la série, elle met un petit peu ça en exergue et nous renvoie un peu ce miroir-là.
Mais je pense qu'il faudrait revoir le vieux film là de Minceau, on en parlait tout à l'heure, ça y est, j'ai mangé le titre.
Running Man?
Non, le film français.
Le film français.
Le prix du danger.
Le prix du danger, ouais.
C'est un vieux film des années 80, même 70-80.
Avec Michel Piccoli.
Qui parlait déjà de ça, en fait. D'un jeu télé où à la fin, le candidat, s'il ne s'en sort pas, il meurt, en fait.
Ouais.
Mais alors, du coup, pourquoi cette thématique revient c'est quand même quelque chose
Moi, ça m'a fait vraiment penser au jeu du cirque.
Ouais.
Parce que là, Pablo a la référence, fait référence au capitalisme, et c'est tout à fait justifié dans la série.
Parce qu'il est question d'argent,
d'argent
et de surendettement.
Mais c'est vrai que moi, les jeux m'ont fait penser aussi au jeu du cirque, les gladiateurs dans l'arène. Quoi. Ouais. Il y a de ça. Okay. Parce que c'était aussi pour une catégorie de la population, c'est pas pour tous les citoyens.
C'est ça.
Donc,
c'est les bas-fonds qui vont se battre.
Ça. Donc ça existe depuis toujours, en fait.
Ouais.
Donc ça revient.
Alors c'est clair que c'est une série ultra cynique.
Ouais, c'est ça que j'aime pas.
C'est ça qui te dérange.
En fait, c'est que dans la société actuelle, je pense qu'on n'a pas besoin de ça.
Ben oui.
On a besoin d'amour
et de légèreté.
On a besoin de Ted Lasso.
Ah, cool.
La petite transition. Maison dans la prairie, tant qu'on y est.
Non, mais c'était pour faire un enchaînement.
Non, mais c'est vrai qu'heureusement qu'il existe des séries comme Friends ou Family Business ou je sais pas, Ted Lasso, voilà.
Non, mais c'est vrai.
Qui remettent un peu de légèreté dans ce monde.
Alors,
brut.
Alors, on en parle juste après une petite pause musicale, parce que là, je pense qu'on en a besoin.
Oui, oui.
Pourquoi Lavilliers, Pablo?
Alors, parce que, d'abord,
Scorpion.
C'est un Scorpion, vous allez voir, c'est un très beau poème, et je trouve qu'il y a une...
un poème?
C'est un poème.
Ah, c'est bien, après Squid Game.
Yes.
Dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G, 101.5, la radio qui fait le point.
Comme le Scorpion, mon frère, t'es comme le Scorpion. Dans une nuit d'épouvante, comme le moineau, mon frère, tu es comme le moineau. Dans tes menus inquiétudes, comme la moule, mon frère, tu es comme la moule, enfermé et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es comme le mouton, mon frère, quand le bourreau habillé de ta peau, quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau. Et tu vas à l'abattoir, mon frère, en courant presque fier. Tu es la plus drôle des créatures, en somme, plus drôle que le poisson qui vit dans la mer, sans savoir la mer, sans savoir la mer. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es comme le scorpion, mon frère, tu es comme le scorpion. Dans une nuit d'épouvante, irai jusqu'à dire que c'est ta faute, mon frère, que c'est ta faute, non. Mais tu y es pour beaucoup, mon frère. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq, tu es des millions, mon frère.
Ouais, c'était le grand Bernard Lavilliers, avec Scorpion d'un Band Geek Mafia. Merci Pablo pour cette belle sélection musicale.
Ah, cool.
Éclectique. Et ici, on aime
l'éclectisme, surtout le 110 mètres F.
Exactement. Alors, je vous l'ai promis, à l'opposé, mais alors diamétralement opposé, on a la série Ted Lasso, une série de Apple TV, mais bon, qu'on trouve très facilement en streaming. Alors, Ted Lasso, c'est un entraîneur de football américain. Il vient du Kansas, voilà. Et il débarque en Angleterre pour entraîner une équipe de football, mais de soccer, le football européen. Pas du tout du football américain.
Donc, il va être perdu, alors.
Il est perdu.
Bah, tu m'étonnes.
Il n'y connaît rien. Il ne connaît pas le soccer. Qu'est-ce qui se passe, Pablo ? Il y a de la musique à l'extérieur, c'est ça ?
Je me demandais.
C'est où ? On entend de la musique ?
Doit être les manifestants.
Ah, il y a une manif dehors. Oh, alors, ils viennent fêter les 40 ans de Radio G.
Voilà, exactement, ils viennent nous voir là, c'est sûr.
Excusez-moi. Alors je reprends. Donc Ted Lasso.
Reste concentré.
Ted Lasso, bah c'est toi qui m'as déconcentré. Ted Lasso, donc football américain, entraîneur de football américain, il vient entraîner une équipe de football anglaise. Il y connaît rien, ouais. Et c'est ça qui est drôle, parce que c'est très drôle.
Il a envie de prendre le ballon à la main.
Alors là, plus que ça même. Et donc en fait, il comprend pas bien ce qui se passe. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il est hyper positif. Voilà, il est prêt à apprendre, il est prêt à découvrir. Et donc, ce qui est amusant, c'est le décalage culturel entre les Américains et les Anglais, qui en fait se comprennent pas forcément, qui ont pas forcément le même langage, même s'ils parlent la même langue. Y a plein d'expressions. Et il y a l'histoire du thé, parce que lui, on lui fait boire du thé. Enfin bref,
c'est une horreur pour un Américain.
Bah oui, c'est ce que c'est que ce
jeu. Fais-moi du coca.
Ouais.
Donc,
et puis alors, la Boston Tea Party, plus de thé.
Je vous explique l'intérêt de cette série en 4 points.
Ah, 4 yes. points.
D'abord, Ted Lasso, le but de cette série, c'est de rire ensemble. Mais pas de rire des autres. C'est
d'accord.
de rire ensemble.
Ensemble, ok.
Donc au début de la série, Ted Lasso, donc, qui est joué par Jason Sudeikis, qui est un acteur américain, il ressemble à Ned Flanders, là. Il a une moustache à la Ned Flanders.
Oui, il est Ned Flanders. Oui, oui, tout à fait, c'est bon.
Et donc, il est optimiste. Voilà. Et il arrive dans ce club de foot anglais qui est en pleine déroute. Ils sont en bas du classement, voilà.
Ouais.
Et donc l'ambiance est pas bonne quoi. L'ambiance est justement cynique puisqu'on en parlait tout à l'heure. Mmh. Voilà, il y a pas de sourire, il y a pas de bienveillance.
Ah,
voilà.
C'est l'amorosité là.
C'est l'amorosité. Ouais. Et puis il y a des joueurs de foot qui sont un peu en tension quoi parce qu'ils sont voilà ils sont en concurrence les uns les autres. Il y a l'arrogant avant-centre forcément l'avant-centre est toujours arrogant, Jamie Tart. Et puis le capitaine qui est un peu aigri parce qu'il est un peu vieillissant. Voilà, Roy Kent. Donc l'objectif du coach, c'est d'ailleurs au départ, c'est pas de gagner, mais c'est d'aider ces types à devenir meilleurs en fait, sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain.
D'accord.
Donc c'est assez réjouissant parce qu'on est dans une époque qui est saturée de conflits hein, et d'agressivité. Et moi j'en ai marre de ça. Vous avez compris ?
Non.
Je pense que vous avez compris.
Non.
Et alors là voilà. Donc là, il dit un truc. Il y a une phrase, une citation de Ted Lasso. C'est quand même extra. Il y a pire qu'être triste.
Ah.
C'est être triste tout seul.
Ah. Ah. Bien.
Alors deuxième point très important pour Ted Lasso, apprendre de ses défaites hein, parce que peu importe si en début de série l'équipe là c'est Richmond ils enchaînent les défaites, les matchs nuls hein, bon bah, c'est pas grave tant que les joueurs sont bien dans leur crampon. Ted Lasso lui il est heureux là, il a mis une pancarte dans le vestiaire, c'est écrit Believe, voilà, donc croyez en vous, croyez,
ouais.
Voilà,
ah ouais.
Donc c'est il les encourage, il y a un message humaniste en fait dans cette série, c'est
Didier Deschamps quoi,
ouais.
Alors attention hein, on n'est pas dans la naïveté, tous les personnages traversent plutôt une crise existentielle.
D'accord.
Hein, quand même.
Ouais.
Et parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont loin de chez eux, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Voilà. Mais ils trouvent dans le groupe le moyen d'avancer.
Ouais.
C'est la force du collectif.
Ouais, tout à fait. Les belles vertus du sport, quoi, en fait. Aussi.
Exactement.
Ouais.
Et c'est comme. Et à un moment donné, par exemple, il y a Nate qui est un peu l'homme à tout faire. Ted Lasso, il voit ses compétences, il voit ses qualités et il devient l'assistant du coach, en fait.
Okay.
Voilà, il y a des choses comme ça. Bon, bah voilà. Troisième point, le beau jeu. Il y a du beau jeu, parce que, comme le dit l'attaquant mexicain de l'équipe, le football, c'est la vie.
Ah.
Il dit tout le temps ça, football is life. Voilà. Avec son accent. Voilà. Et toujours, alors lui, il est toujours joyeux. À chaque fois qu'il touche le ballon, il n'est pas obligé de marquer un but. Lui, il touche le ballon, il est heureux.
Okay.
Et donc,
en clair, c'est une équipe de branquignoles.
Ouais, mais grâce à Ted.
De joyeux branquignoles.
Ouais, joyeux branquignoles.
Et donc, la série, elle arrive à faire de ce sport très populaire, le football, un vrai moteur de dramatique, en fait, un vrai moteur de l'action. On joue avec les codes, les entraînements, les conférences de presse qui sont hilarantes, le discours galvanisant du coach, enfin, tous les clichés comme ça. Et ça rend crédible, en fait, des séquences de match, ce qui est rare, quand même, de rendre des séquences de foot crédibles au cinéma ou en série, c'est rare.
Non, mais rendre crédibles les séances de foot, hein, aussi, c'est dur.
Et puis, dernier point, cette série, c'est un tacle au virilisme, clairement.
Ah.
Oui, clairement. Hein. Cette série a reçu un prix attribué outre-Atlantique au programme de télévision engagé en fait pour son parfait contre-pied à la longue prédominance de la masculinité toxique.
Yo,
oh.
Pas mal.
J'arrive pas à le dire.
Ouais.
Alors pourquoi ? Parce que ça dépasse les archétypes masculins en fait qui sont véhiculés par les footballeurs hein, clairement. Voilà la virilité.
Attends, virilité, footballeur, c'est deux antagonistes.
Hein. Et là en fait, là ce qu'on voit c'est leur fragilité, leur désir de changer, leur empathie aussi et c'est ce qui les rend d'ailleurs plutôt sexy et sympathiques.
Mm-hmm.
Les personnages féminins sont moins nombreux forcément parce que là on est face à une équipe de foot. Donc il y a quand même des personnages féminins, sont moins nombreuses mais elles sont aussi
il y a pas d'équipe féminine.
Non. Non, mais elles sont loin des stéréotypes.
Okay.
C'est ça qui est intéressant.
Ouais.
Parce que par exemple, il y a un personnage qui est une des femmes de joueurs, on pourrait au début imaginer que c'est une bimbo et en fait pas du tout. Elle est super engagée pour améliorer la communication du club, enfin voilà. Elle s'impose comme une figure un peu comme ça protectrice. Un peu, voilà. C'est assez intéressant. Au départ, on n'imagine pas du tout ça du personnage. Mm-hmm. Et en fait, elle n'est pas ce qu'on croit qu'elle est. Il ne faut pas se fier aux apparences.
Il ne faut pas se fier aux apparences. Okay. D'accord. Cool.
Et puis, la patronne du club, elle, au départ, elle est hyper autoritaire. Voilà. Et puis, finalement, elle va évoluer grâce à Ted, hein, pour finalement être plus à l'écoute de ses équipes. Et puis... moi, ce que j'adore, je termine là-dessus parce que c'est extraordinaire. Quand Ted Lasso, il veut encourager un joueur à donner davantage de force et il dit, sois une femme.
Oh, excellent.
Voilà. Moi, je vous conseille, j'adorais. Ted Lasso, il y a deux saisons pour l'instant. Il y en aura une troisième.
Je crois que tu nous as convaincu là.
Tu peux refaire voir la photo.
La tête. De Jason Sudeikis. On dirait Ned Flanders.
Ouais, on dirait Ned Flanders. On dirait aussi Borat un peu en même temps.
Ah ouais. En plus sympa. Bon voilà, c'était pour contrebalancer violence de Squid Game.
Carrément, ça fait du bien.
Merci Seb.
Ça fait du bien.
Ouais, carrément. Alors, tout de suite, Pablo Feu Chatterton. Allez, avec un monde nouveau.
Un monde nouveau.
Plein d'amour.
Sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit du serveur central. Amour. Demain, on le bégayait tous, sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un monde nouveau, on en rêve tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêve tous. Mais que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. S'attraper dans les bras, ça on le pouvait. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras, ça on le pouvait. On le pouvait, on le pouvait, on le pouvait, on le pouvait. Un monde nouveau. Se prendre dans les bras, s'attraper dans les bras, se prendre dans les bras, ça on le pouvait. On le pouvait, se prendre dans les bras.
Un monde nouveau, on en rêve tous, mais on est bien sur Radio G.
On l'attend.
40 ans, Radio G a 40 ans, mais ce n'est pas fini, parce que Seb intervient pour les 40 ans de Radio G. Il est chaud,
oh mon Dieu.
Il est à fond.
Oh bah oui.
Mais qu'as-tu donc dans ton panier?
Qu'as-tu donc dans ton panier? Est-ce que tu veux ton petit générique? Non, t'en as marre de ce.
Moi, j'en ai marre de ce générique. Mais mets-nous donc le petit morceau de musique, le premier que je t'avais demandé, un petit Duke Ellington.
Ouais, parce que Seb m'a dit, mets-nous un petit Duke Ellington. Je dis, bah écoute, pourquoi pas. Il me dit, pourquoi pas.
Bah, parce qu'on va se plonger un petit peu dans l'atmosphère de cette nouvelle bande dessinée. Alors, bien sûr, et le grand retour quand même de la bande dessinée historique, quand même, ça faisait longtemps. Je voyais que ça vous manquait un petit peu.
Oui,
yo. Alors voilà, donc de Rubio d'Anaïde aux éditions Glénat, Les Azous, Howl to Soon, c'est le tome 1 de cette série des Azous qui comportera 3 volumes. France, juin 1940, les Allemands envahissent Paris, commence alors une longue période de l'occupation. Mais pour certains jeunes, hors de question de laisser la guerre, les boches ou la police gâcher la fête. Excentriques et fanatiques, fantasques, les Azous sont avant tout de grands amoureux du jazz et du swing. Frankie, lui, est du genre solitaire. Il va pourtant devoir rejoindre ce groupe de rebelles et malgré lui servir d'informateur aux policiers. Parmi les Azous, il découvrira le véritable sens de l'engagement, de l'amitié et de l'amour, ainsi que le danger omniprésent de tout perdre jusqu'à la vie.
Alors moi, Seb, je sais pourquoi tu as choisi cette BD.
Pourquoi?
Parce que c'est les 40 ans de Radio G et que ça et se passe en juin 1940.
Ça, c'est le truc des historiens.
Eh oui, non,
ils
mais ça,
les dates
c'est...
Non, et ils peuvent pas s'en empêcher.
Ah,
mais les mecs,
c'est clair.
Vous êtes incorrigibles.
Ils kiffent les dates.
Non, mais surtout cette bande dessinée, elle est géniale. Graphiquement, c'est superbement bien réalisé. Et puis, au final, on a ce rythme de swing. Alors, c'est pas vraiment un morceau swing que j'ai choisi, mais ça fait partie des petites pistes sonores que les auteurs vous indiquent à mettre derrière pour la lecture.
Petit conseil musical.
Ça, j'aime bien, moi. Ça, j'aime bien retrouver ça dans les livres.
Donc ça permet de créer une atmosphère un petit peu jazzy. Donc là, on est bien.
Genre, tu pourrais te mettre le morceau en lisant
Tout à fait, c'est ça. Ils proposent une liste.
J'ai trouvé une version live du même morceau qui est extraordinaire. Là, je vous la passe tout de suite. Duke Ellington et Ben Webster, All Too Soon, le même morceau, mais en live.
En live.
Alors, rien à voir, c'est 10 fois meilleur.
Là, on est vraiment des éclectiques, les gars.
Eh ben, tout à fait.
Moi, j'adore le jazz.
Moi aussi, j'adore.
Je vous le cache pas. On en écoute. Ah, pardon, ça a sauté. Bah, désolé. Ah, ça y est. C'est revenu, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un bug. On a Duke Ellington qui fait une longue intro là, il parle beaucoup, je suis désolé. Ah voilà, ça y est, c'est parti. Vas-y Seb.
Donc voilà. Donc oui, effectivement, on est plongé dans cette atmosphère, mais là cette fois-ci, c'est pas l'atmosphère voilà, on est vaincu ou un truc comme ça, c'est plutôt la révolte encore une fois des jeunes qui veulent absolument vivre, s'amuser finalement malgré le contexte et donc du coup voilà, ils sont pris par le courant de l'histoire. Moi je vous le conseille vraiment très très bien. Donc voilà. Deuxième bande dessinée. Alors là, ça c'est la grosse Madeleine de Proust.
C'est très grosse. C'est pour que je rattrape mon retard.
Non. Je ne peux pas dire ça. D'ailleurs, avant même que je vous dise le titre de cette bande dessinée, je pense qu'on va mettre un petit fond, petite musique.
Je l'attendais. Et voilà. Cette
préparée.
Seb m'avait dit. Est-ce que tu peux préparer ça? Alors c'est prêt.
Vas-y.
C'est maintenant?
C'est maintenant. C'est tout de suite. Ça coupe. Décidément.
Je suis sûre que les auditeurs ont déjà reconnu.
Alors. C'est pas le générique.
C'est pas celui-là.
C'est celui-là. Pour moi, il n'y a que celui-là.
Tout le monde en pense.
Voilà.
Les 5 ans.
Eh ben ouais, effectivement, la grosse Madeleine de Proust, puisque nous avons différents auteurs, ils sont au nombre de 5, Dorisson, Barjaram, Cossu, Setnac et Guyot, qui ont décidé de faire, eh bien finalement, un album sur Goldorak. Goldorak, d'après l'œuvre justement de Go Nagai, aux éditions classiques de Kana.
Très bel objet.
Très très bel objet. Ouais. Et alors, franchement, autant vous dire que là, c'est le kiff total.
Non seulement
pour les vieux, mais même pour les nouvelles générations.
Mais il y a des vieux geeks,
pour découvrir sûrement l'univers de Goldorak.
Merci Anaïs.
Merci. Ouais. Et donc
ça reste une référence, je sais. Pour le manga aussi, quand même, il y a quelque chose. Quoi.
Tout à fait.
Et comment on dit en japonais? Parce qu'on dit pas Goldorak en japonais.
Non.
On dit
Mazinger.
Ouais, Grandizer.
Le Grand Mazinger, c'est un autre personnage. Mais Mazinger.
Vous vous souvenez de ça?
Ouais, ça.
On écoute 2 secondes, écoutez. Vous vous souvenez de ce qui va se passer là?
Ouais. Eh oui.
Ça dure pas longtemps.
Métamorphose.
Ah bah il a tout dit.
Ah, mais t'as spoilé.
j'ai spoilé, mais je peux pas m'empêcher là.
Ça, c'est vraiment un souvenir d'enfance.
Ah, ça, c'est. Et combien de fois on a joué sur la cour d'école justement à ça, à courir et à sauter pour se
faire. Mais pas de morphos. Et puis, bah, nous, non, ça ne marchait pas.
Ça y est, ça marche.
Donc voilà. Alors,
décollage.
Décollage. Col d'Orac.
Go. Go.
Alors. Go. Ah, on se lasse pas là, on a du mal. Donc voilà, la guerre entre les forces de Vega et Goldorak est un lointain souvenir. Actarus et sa sœur sont repartis vers Surofor, tandis que Alcor et Vénusia tentent de mener une vie normale. Mais des conflits des confins de l'espace surgit le plus puissant des Golgoths, l'Hydragon. Alors que le monstre de l'ultime division ruine écrase les armées terriennes, les exigences des derniers représentants de Vega sidèrent la planète. Sous peine d'annihilation totale, tous les habitants du Japon ont 7 jours pour quitter leur pays et laisser les envahisseurs coloniser l'archipel. Face à cet ultimatum, il ne reste qu'un dernier espoir. Goldorak.
Yo.
Voilà. Donc en clair, on retrouve Goldorak, 43 ans finalement. Donc c'est la continuité. On apprend ce qui s'est passé finalement, mm-hmm. et on retrouve ces personnages avec grand plaisir.
Et réactualisés.
Réactualisés, c'est vraiment génial. Mm. C'est vraiment un super kiff à lire, à voir aussi en même temps. Et ce qui est génial, c'est que sur la fin de cet album, donc vous avez la note d'intention qui a été faite par. Par l'un des créateurs, les recherches visuelles, quoi. Enfin bref, les scénarios, vous avez toute la construction qui est expliquée, la couleur, les choix, faire revivre les personnages avec finalement plus d'années qu'on ne les a laissés. Et puis surtout, moi, ce que je trouve génial, c'est que à la toute fin, on a la photo des 5. Je vous montre là.
Ah oui, avec leur figurine Goldorak.
Ouais. Et surtout. Là, une page sur une page, on voit qu'en réalité, ils étaient déjà très très mordus, puisque c'est leur premier dessin.
C'est mignon.
Quand ils avaient, quand ils étaient.
C'est vrai qu'on dessinait Goldorak.
Ils avaient déjà du talent.
Oui, plus que moi.
Moi, beaucoup plus. Quoique là, non, là, c'est à peu près moi aussi.
Oui, moi, c'est ça.
Mais voilà, donc du coup, c'est vraiment une BD de fan. Qui se termine pas en eau de boudin, comme on peut dire aussi en même temps, parce que ça pourrait terminer à mal. Et au final, non, on a une bande dessinée qui laisse peut-être entrevoir la possibilité de quelque chose ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se suffit à lui-même. Et on passe un super moment.
Merci Seb.
Merci Seb.
Quelle belle BD.
Ouais, magnifique.
Très beau cadeau de Noël. Alors, je vous redonne les références. Donc, Goldorak, d'Orison, Benjaram, Kossu, Saint-Nac, Lio, d'après l'œuvre de Go Nakai, aux éditions Kana Classique. 24 euros, quand même. Hein, donc, un petit cadeau de Noël qui peut être sympa. Les Azou de Rubio, Danidé, All Too Soon, aux éditions Glénat. Voilà, c'est pareil, c'est 15 euros. Donc, de très belles bandes dessinées. Je vous la garde pour la prochaine fois.
Merci Seb.
Alors, ça, c'est une version symphonique du générique.
Bravo.
Alors, avant de se quitter, on va faire des petits teasings, parce qu'il reste 5 minutes, pour la prochaine émission, donc le 3 novembre. Alors, Pablo, malheureusement,
je ne serai pas là.
Ce ne sera pas des nôtres, mais Anaïs, tu voulais nous parler d'une série.
Alors, ouais, c'était pas le bon moment, je pense, ce soir, d'aborder cette série après Squid Game. Je voulais vous parler de la saison 3 de You. Avec Joe Goldberg, ce tueur en série qu'on se prend à aimer, quoi. Voilà.
Waouh, j'adore. Et mais c'est ça. Mais par contre, alors moi, je voulais juste signaler que j'ai vu qu'il allait sortir la semaine prochaine sur France 2 une série qui s'appelle Germinal. Du coup, une adaptation du célèbre roman d'Émile Zola, Germinal, en série. À voir.
Et Pablo, il faudra que tu nous parles de Family Business.
Et voilà, on parlera de Family Business, peut-être de The Crown, on aura plein de choses à voir.
On a plein de choses à voir. Et bien moi, je vous parlerai d'une super BD, Algue Verte, l'histoire interdite.
Et moi, je vous parlerai encore d'une bande dessinée qui vous fera prendre de la hauteur, Spitfire.
Impeccable.
Allez, un petit générique, et après on se dit au revoir.
Voilà, oui, déjà, ça passe tellement vite. Now.
FM. That
That's right. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right.
Voilà, là vous venez d'entendre le nouveau générique.
Et alors, on se quitte avec un petit morceau de Ministry, parce que Ministry c'est un groupe qu'on affectionne particulièrement. Ça a été pendant longtemps la musique du générique de Band Geek Mafia, ouais. Avec un vieux morceau, un Burning Inside. Là c'est un nouveau titre qui vient de sortir qui s'appelle Good Trouble. C'est un groupe de métal industriel, mais mm-hmm. ça passe bien. Il y a un message engagé aussi.
Clairement, ouais.
Ouais, clairement. Donc voilà. Dans 15 jours.
Bah oui, pas samedi,
non,
mais mercredi.
Voilà.
À 19h.
Et on souhaite encore un bon anniversaire à Radio G.
40 ans, ça se fête.
40 ans, ça se fête.
Restez à l'écoute parce qu'il y a des émissions pendant 40 heures non-stop sur Radio G. Donc nous, on a fait partie de ces 40 heures.
Voilà.
Mais ça continue juste derrière nous. Je vois qu'ils attendent. On leur laisse la place. Et à bientôt. Salut.
Salut.
Ciao, ciao.
Attention, ça va partir. Parce que c'est, parle-nous un petit peu de la culture des fraises en Basse-Normandie.
Alors, la culture des fraises en Basse-Normandie, c'est comme la culture du homard.
Mais quelle date?
Ça dépend, il y a 40 ans de ça. Ça fait au moins 40 ans qu'on fait ça.
Très important.
Très, très, très important. Et ça ne veut toujours pas partir. Donc,
salut.
Ciao, ciao.